France Culture.
Le journal est présenté par Nicolas Balu. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. La lutte contre l'immigration illégale, étendard politique et moyen de communication gouvernementale. Aux États-Unis, Donald Trump met en scène l'expulsion de migrants. Nous irons à Newark. En France, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau présente un décret qui restreint les régularisations. De nouvelles consignes qui créent des remous, nous dira Mathieu Laurent. Le cessez-le-feu au sud-Liban, le retrait des troupes israéliennes a du retard. Israël considère que le Liban n'a pas tenu tous ses engagements. Christian Chéneau nous expliquera pourquoi. Le pouvoir azerbaïdjanais traque ses opposants jusqu'en France. C'est l'enquête de Philippe Reltien dans ce journal. La dernière usine française de fabrication de panneaux photovoltaïques ferme ses portes. Photowatt à Bourgoin-Jallieu en Isère. Le photovoltaïque européen est sinistré. Et puis les nuits de la lecture ont lieu jusqu'à dimanche, l'occasion de se pencher sur les difficultés qu'ont les enfants face à l'écrit. L'étendard de la lutte contre l'immigration brandi par la droite ou l'extrême droite est l'un de ses premiers chantiers, au moins médiatique, lorsqu'elle est au pouvoir. Deux exemples ce soir. D'abord, la France, l'immigration est le cheval de bataille de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur lance sa politique de lutte contre l'immigration via de nouvelles consignes et s'attaque à la circulaire Valls qui encadrait l'accès au titre de séjour des étrangers en situation irrégulière. Elle permettait de dénouer certaines situations en dérogeant aux règles classiques de régularisation. Environ 30 000 personnes voyaient un titre de séjour délivré chaque année. La circulaire Retailleau exige une durée de présence d'au moins 7 ans pour qu'un sans-papier soit admissible à une régularisation au lieu de 5 ans. Bonsoir Mathieu Laurent.
Bonsoir.
Quels sont les mots utilisés par le ministre de l'Intérieur pour justifier ce changement ?
Eh bien, les mots pour scénariser la présentation de cette circulaire sont ceux qui peuplent le lexique de Bruno Retailleau depuis toujours. Il prétend reprendre la main sur les flux migratoires, les peuples le demandent, cette vox populi qui prête au pouvoir, je cite, du laxisme, d'où ce regain de souveraineté que le ministre de l'Intérieur demande au préfet via cette circulaire. Bruno Retailleau.
Le compte n'y est toujours pas, loin s'en faut. Nous ne ferons pas les frais de votre incapacité à contenir vos partenaires républicains qui, hier soir, n'ont rien trouvé de mieux que de ne pas respecter...
Eh bien, on écoutera cet autre extrait sonore. Je vous propose donc, comme prévu, comme présenté, d'écouter Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui demande au préfet, via cette circulaire dont on parle, un regain de souveraineté. Manifestement, quelques difficultés pour écouter Bruno Retailleau. Bon, Bruno Retailleau, je vais vous en donner, la quintessence de ses propos, dit qu'il faut... Il faut l'écouter, puisque dans les ordres, on me dit qu'on peut l'écouter, on l'écoute.
Alors, allons-y.
Il n'y a pas de droit automatique et général à la régularisation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prime à la fraude. Et moi, ce que je ne veux pas, c'est que obtenir des papiers en passant illégalement nos frontières soit plus simple et plus rapide que obtenir des papiers légalement. Pour des étrangers qui vont s'inscrire dans un parcours pour obtenir un titre de séjour, travail, légalement. On ne peut pas désavantager les seconds qui acceptent nos règles au mépris des premiers qui les violent. Si on ne le fait pas, on encourage un appel d'air.
Un fait prétendu que l'automaticité et la généralisation de la régularisation, ce sont les termes cette fois d'Aurore Crisoy, responsable nationale des questions de séjour à la CIMAD, qui étrille et l'esprit et l'architecture de cette circulaire.
Nous, ce qu'on dénonce à la CIMAD, c'est vraiment cette logique de suspicion et de stigmatisation des personnes étrangères qui ne fait que, en fait, agrandir la précarisation. Au niveau des conséquences, et la crainte qu'on a à la CIMAD, c'est qu'il n'y a absolument pas de clarté, aucun niveau de maîtrise de la langue française n'est énoncé, et durant ces 7 années, aucun critère n'est donné pour accéder à une régularisation, donc qui soit légale, en fait, et qui ne soit pas à l'arbitraire et au discrétionnaire des préfectures qui risquent de s'amplifier énormément, et qui soit large et durable pour toutes les personnes et qui respecte également les droits fondamentaux.
On est un peu dans la caricature, on surfe sur une vague entière. Anti-immigration généralisée, déplore Roland Lescure, député macroniste et vice-président de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle circulaire doit être abrogée et un débat doit s'ouvrir au Parlement rapidement, tonne le Parti communiste.
Merci Mathieu Laurent. Aux États-Unis, après les dizaines de décrets signés dès son investiture, dont l'un entérinant la fin du droit du sol, voici le nouveau président américain qui continue de mettre en scène ses premiers pas pour montrer qu'il tient ses promesses. Donald Trump avait promis d'expulser des millions de personnes. Et ce matin, la Maison-Blanche faisait savoir que des centaines d'arrestations et d'expulsions avaient eu lieu. C'est le cas à Newark, dans le New Jersey, où le maire dénonce une descente contraire aux règles de la Constitution, Loïc Loury.
La police de l'immigration parle d'une opération ciblée menée à Newark. Il arrive, affirme-t-elle, que nous rencontrions des citoyens américains lors de notre travail de terrain. C'est exactement ce qui se serait donc passé hier dans le New Jersey. En d'autres termes, circuler, il n'y a rien à voir. Le maire démocrate de la ville, Raz Baraka, lui dénonce une descente et l'arrestation de plusieurs personnes, dont des citoyens américains et un vétéran de l'armée, le tout sans mandat, en pleine violation, dit-il, du 4e amendement de la Constitution. Au total, l'administration Trump se vantait hier d'avoir arrêté 538 migrants criminels illégaux aux quatre coins du pays. Une statistique qui, en réalité, n'a rien d'exceptionnel et relève en bonne partie de la mise en scène, de la pure propagande, dénonce ainsi l'ONG American Immigration Council. Le nouveau président ne compte toutefois pas s'arrêter là, lui qui dit vouloir déporter des millions de sans-papiers, en ciblant en priorité les villes démocrates, dites sanctuaires. Égard aux élus locaux, dit le ministère de la Justice, qui ne coopérerait pas avec les autorités fédérales.
Pour son premier déplacement, Donald Trump se rend en Caroline du Nord et en Californie, deux États éprouvés par les catastrophes naturelles. Le premier avait été touché par l'ouragan Helene en octobre dernier. Le second se débat toujours avec les incendies autour de Los Angeles. Donald Trump pourrait signer un décret supprimant l'Agence fédérale de réponse aux catastrophes naturelles. Au Proche-Orient, le Hamas a publié cet après-midi les noms de quatre soldates israéliennes qui doivent être libérées demain. Cette libération intervient dans le cadre d'une deuxième série d'échanges contre des prisonniers palestiniens détenus par Israël. C'est ce que prévoit l'accord de trêve dans la bande de Gaza. En revanche, des tensions nouvelles apparaissent au sud Liban. L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah court jusqu'à dimanche. Or, Israël indique que le processus de retrait de ses troupes se poursuivrait encore au-delà, Christian Cheneau.
En deux mois de trêve, la désescalade est nette, mais ce n'est pas encore un retour à la normale. L'armée israélienne a évacué une partie de ses positions dans la bande frontalière, mais poursuit ses opérations militaires en territoire libanais, au sol et dans les airs. L'État hébreu va maintenir des troupes dans certaines positions au Liban, au-delà de l'accord des 60 jours de cessez-le-feu qui arrive à échéance dimanche prochain. Israël a fait passer le message à la nouvelle administration Trump qu'il a besoin d'un délai supplémentaire d'un mois pour retirer tous ses soldats, selon CNN. Même si l'armée libanaise a commencé son déploiement au sud du Litani avec plus de 4000 soldats et que le Hezbollah n'a plus d'activité importante dans la zone, Benjamin Netanyahou considère que le compte n'y est pas et que la menace perdure pour faire revenir en toute sécurité les habitants du nord du pays. Côté libanais, on dénonce le retard israélien de se retirer alors que la dynamique d'apaisement est positive. Les autorités de Beyrouth redoutent que le prolongement de l'occupation israélienne en violant l'accord de cessez-le-feu ne donne du grain à moudre au Hezbollah qui s'est toujours considéré comme le parti de la résistance.
Christian Cheneau, nouvelle journée de forte mobilisation en Serbie où des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans tout le pays contre la corruption et le népotisme. Trois mois après l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad qui a tué 15 personnes, le pouvoir du président Vučić n'a jamais été à ce point contesté, avec un appel à la grève générale et plusieurs rassemblements, notamment à Belgrade. Reportage sur place de Louis Cellier.
C'est une véritable marée humaine qui a répondu à l'appel des étudiants et envahi les boulevards de la capitale serbe. À 22 ans, Milan Petrović donne de la voix dans son mégaphone.
Aujourd'hui, nous appelons à une grève générale pour que tout s'arrête pendant une journée en Serbie et pour dire aux gens que le système ne fonctionne pas dans notre pays.
Manifestations et blocages de rue, le mouvement étudiant réclame toujours justice pour les victimes de la catastrophe de Novi Sad. Au milieu de la foule, Marta tient une pancarte avec des mains rouges.
C'est l'un des symboles de notre mouvement. Ses mains sont ensanglantées parce que les autorités sont restées si longtemps silencieuses. Aujourd'hui, tout le monde doit se réveiller. On doit tous descendre dans la rue et prendre part à la mobilisation.
Depuis lundi, beaucoup d'écoles du pays se sont mises en grève. Petar est venu manifester avec ses collègues enseignants. Tous dénoncent le système corrompu d'Aleksandar Vučić et son parti, le SNS, au pouvoir depuis 2012.
La justice n'existe pas dans ce pays, c'est la mafia qui est au pouvoir ici. Les élections sont basées sur le vol, un seul mot me vient, mafia.
Enseignants, avocats, comédiens, de nombreuses professions ont cessé le travail cette semaine. Femme de ménage, Diana espère du changement.
On en a assez de la corruption, du mensonge. Nous avons 4 enfants et c'est seulement si quelque chose change que nous resterons vivre en Serbie.
Alors qu'il accuse les renseignements occidentaux de chercher à le renverser, le président Vučić a appelé ses soutiens à une contre-manifestation organisée cet après-midi dans dans une ville du centre du pays.
Louis Seyer à Belgrade. La tempête Ewen s'est abattue cette nuit et toute la matinée sur l'Irlande, puis l'Écosse notamment. L'Irlande qui a été placée en alerte rouge par le service météo national. Elle a été levée aux alentours de 15h, mais l'île a fait face à des vents extrêmement violents. Clémence Pénard nous fait le bilan de cette tempête à Dublin.
Des arbres déracinés qui jonchent les routes, des débris volants. Les Irlandais priés hier soir de rester chez eux sont désormais appelés à la plus grande vigilance. Les alertes orange demeurent dans le pays et plus de 700 000 foyers sont toujours privés d'électricité. C'est donc près d'un Irlandais sur 8. L'approvisionnement en eau de plus de 500 000 personnes est également menacé après les dégâts considérables causés par la tempête Éowyn. Des rafales records ont été enregistrées pendant la nuit, près de Galway jusqu'à 183 km à l'heure et une mer déchaînée avec des vagues de 7 à 10 mètres à l'ouest du pays. Joanna Donnelly, météorologue sur la radio Newstalk.
Les zones côtières à l'ouest vont subir les conséquences les plus importantes. Mais la différence notable entre cette tempête et les précédentes, c'est qu'elle traverse le pays tout entier. Et certaines zones qui n'ont jamais vécu une telle situation auparavant seront affectées.
Alors aujourd'hui, toutes les écoles du pays étaient fermées, les vols en prévision avaient été annulés et les trains et les bus ne circulaient pas ce matin. Le phénomène, qualifié de bombe météorologique, s'est déplacé vers l'Irlande du Nord et atteint désormais l'Écosse et le Pays de Galles. Le président du groupe national de coordination des urgences a déclaré qu'Ewen serait la pire tempête depuis l'ouragan Debbie en 1961 qui avait fait 12 morts en Irlande. Pour l'instant, aucun décès n'est à déplorer.
Clémence Pénard à Dublin. Ils ont quitté l'Azerbaïdjan pour échapper à la répression du pouvoir de Bakou, mais plusieurs d'entre eux continuent pourtant d'être menacés en France et en Europe. Bonsoir Philippe Reltien.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la cellule d'investigation de Radio France. Vous avez enquêté sur ces menaces contre ces opposants et qui ont récemment été mises à exécution sur le sol français.
Oui, c'était le 29 septembre dernier à Mulhouse. Il était 6h30 du matin. Vidadi Isgandarli, un ancien magistrat azerbaïdjanais, réfugié en France, est poignardé à son domicile. Il est gravement blessé, mais a quand même la force d'alerter son frère, Oktay, pour qu'il vienne à son secours. Nous avons fait traduire les propos de son frère.
Et mon frère crie « Police, police !» Vidadi, dis-moi.
Ils sont rentrés par la fenêtre, ils étaient tous masqués. Il y en a un, il a pris un couteau et il prenait un coup de couteau. Voilà, il criait « Allez, allez, police, police, police !» Dès qu'ils ont entendu qu'il criait vraiment fort, super fort, ils sont partis. Mais avant ça, Vidadi leur a proposé « Prenez mon téléphone, prenez tout mon argent, prenez tout ce que vous voulez dans l'appartement. » Mais eux, ils n'étaient pas là pour l'argent et ce qu'il y avait dans la maison. Ils étaient là vraiment pour le tuer.
Et deux jours plus tard, Vidadi Isgandarli mourait des suites de ses blessures. Cet ancien procureur avait obtenu l'asile politique en France en 2018. Il était un opposant farouche au régime de Bakou, notamment à travers sa chaîne YouTube. Et juste après l'assassinat, un message de menace a été envoyé sur Messenger à l'un de ses amis dissidents exilés en Suisse, à Bâle, à côté de Mulhouse.
« Salut, ça va? On a tué ton ami Vidadi. On va te tuer. On connaît ton adresse à Bâle. On te suit. » On va te poignarder 50 fois chez toi. On va te frapper là où tu dors, dans ton lit. C'est notre dernier avertissement. Excuse-toi et passe du côté du gouvernement. Bientôt, on va te poignarder et te couper la tête.
Et ce que vous avez découvert, Philippe, c'est que quelques jours avant l'assassinat de cet ancien magistrat, une alerte avait été lancée.
Oui, par un journaliste azerbaïdjanais opposant au régime de Bakou et réfugié, lui, à Strasbourg, pas très loin de Mulhouse. Le 16 septembre dernier, une source bien informée à Bakou lui avait transmis une liste de 5 opposants que le pouvoir azerbaïdjanais souhaiterait abattre. Et dans cette liste, il y a justement le nom de l'ancien procureur Vidadi Isgandarli. Le journaliste contacte alors l'organisation Reporters sans frontières, dont il est membre, qui alerte à son tour les services de l'État, comme en témoigne Jeanne Cavelier de RSF.
On a effectivement transmis cette liste à des policiers. Prioriser les menaces, c'est le travail de la police. Ce n'est pas le travail des organisations de défense des droits de l'homme ni de RSF. Après, c'est à la police d'évaluer. Donc moi, je ne peux pas juger leur travail, même si l'assassinat a été extrêmement choquant pour nous.
Puis, l'assassinat donc de l'opposant Vidadi Isgandarli, qui, je le rappelle, a donc eu lieu 13 jours après cette alerte.
Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Est-ce que cette alerte a vraiment été prise en compte par la police?
Alors oui, 3 jours après avoir contacté RSF, 2 agents du renseignement vont rencontrer le journaliste lanceur d'alerte, Ganimat Zaïd, à Strasbourg. Mais le risque a peut-être été sous-évalué. C'est en tous les cas ce que pense la journaliste Alice Pontallier, qui a longuement enquêté sur le sujet pour Intelligence Online.
Les services de renseignement, en particulier la DGSI, la DGSE, ne s'attendaient pas à un tel proactivisme de Bakou. Il y a eu un effet de surprise. Ils s'attendaient à ce genre de démarche de la part de la Russie, mais pas de l'Azerbaïdjan. Et je pense que c'est cet effet de surprise. Évidemment, je ne veux pas donner d'explication qui dédouanerait qui que ce soit, mais qui a pu jouer et qui a pu faire en sorte qu'il y ait eu cette sidération, en fait.
Et je précise que nous avons contacté le renseignement intérieur, qui n'a pas souhaité réagir, tout comme l'ambassade d'Azerbaïdjan en France. Il y a tout de même eu un précédent assez spectaculaire. C'est le blogueur Mahamad Mirzali, réfugié à Nantes, l'un des ressortissants étrangers les mieux protégés de France, et qui a réchappé par miracle à 3 tentatives d'assassinat dirigées contre lui. Dans cette affaire, 10 personnes ont finalement été renvoyées devant les tribunaux, des tueurs à gages liés au milieu caucasien et dont 8 viennent d'Azerbaïdjan.
Merci Philippe Prétien, votre enquête complète est à retrouver sur radiofrance.fr. Rodrigue Petitot, le leader du mouvement contre la vie chère en Martinique, a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Fort-de-France pour des actes d'intimidation envers le préfet du territoire. Rodrigue Petitot s'était introduit avec 3 autres militants dans la résidence préfectorale. C'était le 11 novembre dernier. Il s'en était pris également verbalement au représentant de l'État, Jean-Christophe Bouvier. C'était la dernière entreprise de panneaux solaires français et elle ferme ses portes. EDF Renouvelable annonce aujourd'hui la fermeture de Photowatt, entreprise de 170 salariés installée à Bourgoin-Jallieu en Isère. Bonsoir Mathilde Cariou.
Bonsoir.
Ça fait un moment qu'EDF voulait céder Photowatt, qu'elle avait racheté en 2012 alors que l'entreprise était déjà en difficulté. Mais les dernières négociations avec la société Carbon ont échoué fin novembre.
Oui, l'entreprise lyonnaise s'était engagée en septembre dernier à reprendre Photowatt pour 1 euro symbolique, avec l'idée de l'associer à son projet de giga-usine photovoltaïque dans les Bouches-du-Rhône et donc de relancer la production Made in France. Négociation suspendue donc fin novembre, car la construction d'une nouvelle ligne de production s'avérait trop laborieuse et trop coûteuse. L'entreprise va donc fermer, a priori au mois de mai. Une réunion est prévue le 4 février pour présenter aux 162 salariés leurs options de reclassement.
Alors, cette fermeture n'est pas vraiment une surprise. Photowatt perdait entre 20 et 30 millions d'euros par an. Et dans le contexte actuel, eh bien, ça va dans le sens de l'érosion du tissu industriel européen.
Oui, conséquence de l'augmentation de la concurrence chinoise qui détient 80% du marché mondial du photovoltaïque. Et la pression s'est encore accentuée l'an dernier quand les États-Unis ont décidé de fermer leurs portes aux panneaux solaires chinois. La production s'est donc déversée sur le marché européen. Pourtant, la France n'a pas définitivement fait une croix sur la production photovoltaïque. Je parle à l'instant du projet Carbone. Il en existe un autre en développement en Moselle. Et le marché, lui aussi, existe. L'installation de panneaux solaires augmente chaque année en France. Et on apprenait en milieu de semaine que la SNCF allait déployer des panneaux sur ses rails non utilisés, panneaux de fabrication française.
Merci Mathilde Cariou. Les nuits de la lecture ont débuté hier et elles auront lieu jusqu'au dimanche, organisées par le Centre National du Livre. L'objectif est bien sûr de promouvoir le livre et la lecture auprès de tous les publics. La lecture, c'est un plaisir, c'est aussi une difficulté. Selon une étude de l'OCDE, en matière de compréhension de l'écrit, 28% des adultes en France ont un niveau de maîtrise faible, contre 22% il y a 10 ans. Une tendance qu'on observe aussi chez les enfants, Juliette Pietraszewski.
Décoder les lettres, les sons, comprendre le vocabulaire, l'apprentissage de la lecture est loin d'être une chose facile pour certains enfants. Les causes sont multiples, des troubles comme la dyslexie par exemple, l'environnement ou encore le milieu socio-économique. Gwendoline Mahé, maître de conférence à l'Université de Lille, spécialiste de l'apprentissage de la lecture, participe à une étude nationale sur les difficultés de lecture chez les enfants.
On serait passé à peu près de 15 à un peu plus de 25% d'élèves qui seraient un peu plus en difficulté dans la compréhension de l'écrit. Donc on sait que dans les dernières années, la période Covid a pu impacter, puisqu'il y a eu un confinement avec une fermeture des écoles à un moment donné. Ça peut forcément impacter les apprentissages. Et après, la diminution forcément de la pratique de la lecture dans les activités de loisirs va faire que la lecture va être moins pratiquée, moins automatisée.
Selon une étude du Centre National du Livre, un jeune sur 5 ne lit jamais dans le cadre des loisirs. Or, c'est notamment sur ce point qu'il faut agir et ce, dès l'apprentissage de la lecture, explique Séverine Casalis, professeure de psychologie cognitive à l'Université de Lille.
La plupart des mots, on les apprend implicitement en lisant. Alors, plus on lit, plus on s'expose à des mots nouveaux et des connaissances nouvelles. Mais la grande difficulté liée à un vocabulaire trop pauvre. Dans ce cas-là, eh bien, il faut travailler sur des lectures orales. S'il y a trop de mots qu'on ne comprend pas, alors on ne peut rien construire du tout. Présenter un petit peu les contextes avant d'aborder la lecture, ça peut être une manière de faciliter finalement la lecture et de ne pas démotiver les lecteurs.
Et pour les enfants dyslexiques, la spécialiste rappelle l'importance du travail de rééducation chez les orthophonistes.
Juliette Pietraszewski, un mot du temps. Demain, il sera globalement pluvieux, d'ouest en est. Les températures seront douces. Les maximales sont comprises entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord et entre 11 à 18 degrés sur la moitié sud. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Brice Garcia à la technique Ludovic Auger.